appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de Parole aux auditeurs, une émission qui permet de vous exprimer sur divers sujets d'actualité qui vous intéressent. Parole aux auditeurs se consacre ce lundi aux conditions d'études dans les instituts supérieurs et universitaires en RDC. Par conditions d'études, nous disons infrastructures, la manière dont les enseignements sont dispensés et d'autres éléments qui permettent une meilleure assimilation du savoir dans ces instituts supérieurs et universitaires. D'ailleurs, à ce sujet, le mois dernier, les étudiants de l'Université catholique du Congo, ex-faculté catholique de Kinshasa, avaient adressé un mémorandum à la Conférence nationale épiscopale du Congo et à leur autorité académique réclamant l'amélioration de leurs conditions d'études. Il faut signaler que ces manifestations ont entraîné le renvoi de quelques étudiants manifestants. Pour lancer notre discussion, voici les questions. Comment jugez-vous les conditions d'études dans votre institution supérieure ou votre université et que faut-il faire pour les améliorer? Nous avons invité pour vous le professeur Mwabila Malela. Il est secrétaire permanent du conseil d'administration des universités, ancien recteur de l'université de Kisangani et aussi membre du conseil d'administration de l'AUF, agence universitaire de la francophonie qui regroupe une centaine d'universités dans le monde. Ce sujet vous intéresse? N'hésitez pas de nous contacter. Pierrot Lameji, Titim Poutou, Franck Tseta et Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs.
Composez le 081 99 77 800,
par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, bonjour chers auditeurs. Nous disons également bonjour au professeur Mwabila Malela. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui dans nos studios. Nous sommes très flattés par votre présence. Nous allons parler des conditions d'études dans les universités et instituts supérieurs. Nous allons écouter d'abord quelques témoignages de nos auditeurs qui sont déjà en ligne parce qu'ils sont nombreux à vouloir réagir, à vouloir s'exprimer sur ce sujet qui les intéresse. Nous avons Aline qui est en ligne, elle nous appelle à partir d'Ouvira. Bonjour Aline.
Bonjour madame.
Oui Aline, dites-nous, comment jugez-vous les conditions d'études dans vos universités dans le Sud Kivu et si vous avez des institutions supérieures à Ouvira, dites-nous un peu comment est-ce que vous jugez ces conditions d'études.
Je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous m'offrez de passer en direct sur votre émission.
Mmh.
Et si je juge bon d'intervenir, c'est parce que je suis aussi étudiante à l'Université catholique de Bukavu,
oui,
campus d'Ouvir.
Mmh.
Madame, si aujourd'hui il y a la montée des incertitudes dans les organisations, c'est parce que les universités et les instituts supérieurs ne ferment plus comme il faut. Et cela entraîna aussi la malformation des futurs cadres que nous sommes. Concernant maintenant ici chez nous à Ouvira, moi je pense qu'aujourd'hui la condition dans laquelle plusieurs universités et instituts supérieurs fonctionnent est très mal alarmante. D'abord, sur 18 qui est contre notre territoire aujourd'hui, c'est la nôtre qui a son propre local à elle. Toutes les autres fonctionnent dans des locaux, des écoles primaires. Et la plupart d'eux commencent le cours à 14h pour terminer à 18h. Je me demande maintenant, avec ce nouveau calendrier du ministère de tutelle, est-ce que ces institutions auront à terminer les programmes avec les 4 heures d'études seulement par jour?
Mm-hmm.
En outre, elles n'ont même pas de bibliothèque, malgré qu'il y a déjà l'avancée de la technologie avec la recherche sur Internet,
mm-hmm,
mais la bibliothèque s'avère aussi indispensable.
Mm-hmm.
Mais ce que je peux seulement demander à son Excellence, Monsieur le Ministre, ma chère commande, de descendre lui-même sur le terrain, même dans les seuls fonds du territoire, pour s'imprégner de la réalité sur la viabilité des instituts supérieurs et universités parce que ce délégué peut camoufler la réalité en se livrant à la constitution, à la corruption plutôt.
Merci beaucoup Aline. En gros, vous vous plaignez de beaucoup de choses, hein, notamment des locaux qui ne sont pas appropriés, l'inquiétude sur la qualité même de la formation. Et vous pensez qu'il serait préférable que le ministre puisse continuer parce qu'il faudrait dire qu'il a déjà commencé son étude sur la viabilité des institutions supérieures et universitaires. D'ailleurs, il y a certaines institutions qui ont été fermées par rapport à cela. Merci beaucoup Aline pour votre intervention à partir d'Ouvira. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes à Mbandaka, on vous écoute.
Ok, merci, je vous remercie pour m'avoir accordé la parole.
Oui,
si... oui, bon, je dirais...
S'il vous plaît, Jean-François.
S'il vous plaît, Jean-François.
Jean-François.
Nous avons beaucoup de problèmes.
S'il vous plaît, Jean-François.
Il faut.
S'il vous plaît, Jean-François. Jean-François, vraiment, vous savez très bien, c'est pas la première fois que vous intervenez à cette émission, et vous savez très bien que quand vous intervenez, il est préférable de pouvoir éteindre carrément son poste récepteur ou s'en éloigner et suivre l'émission à partir de votre téléphone portable, parce que là, nous avons un retour qui n'est pas du tout agréable, et si c'est possible de carrément l'éteindre, Jean-François, on va pouvoir peut-être vous recontacter plus tard. J'espère que vous avez pu éteindre votre téléphone, votre poste récepteur. Bon, nous allons essayer de pouvoir recontacter Jean-François. Donc, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous avons la réalisation vient de me faire signe que Jean-François est à nouveau en ligne. Jean-François.
Oui, allô?
Oui, comme nous vous l'avons demandé, même la réalisation vous l'a à nouveau signifié, il faudrait vraiment que vous puissiez éteindre votre poste récepteur pour qu'on ait une meilleure communication. Jean-François, on vous écoute.
Ok, je disais que les conditions d'études dans notre université sont vraiment dans un état déplorable. Je dirais, les locaux que nous sommes en train de suivre les cours, ce sont des locaux qui ont la capacité
Jean-François, vraiment, c'est
mais
vraiment...
Malheureusement...
S'il vous plaît, Jean-François, vraiment, ça ne passe pas très bien. On vous entend difficilement. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Donc, Jean-François, vous allez encore essayer, encore une fois, d'être en endroit où c'est assez calme. La réalisation pourra vous recontacter.
Parole aux auditeurs.
Professeur Mouabila, vous avez suivi nos deux premiers auditeurs. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait la ronde de plusieurs auditeurs pour savoir comment ça se passe à travers la RDC. Par exemple, à Ouvira, on parle des locaux qui sont inappropriés, même de l'inquiétude sur la qualité de la formation. Avec Jean-François, c'était presque les mêmes problèmes, même si on n'a pas vraiment suivi. Mais en gros, il parlait aussi de ces infrastructures qui ne sont pas vraiment, qui sont pas adéquates par rapport à la situation actuelle. Professeur, votre réaction?
Je vous remercie, mais je crois que les étudiants qui ont parlé ont parfaitement raison. Mmh. Ils parlent de locaux qui sont inappropriés, c'est vrai. Ils parlent de conditions de travail qui ne sont pas parmi les meilleures, c'est tout à fait vrai. Mmh. Parce que voyez-vous, les établissements d'enseignement supérieur, tels que nous les connaissons aujourd'hui, à ne prendre que les cas de l'UNIKIN, de l'UNILU, de l'UNIKIS. L'UNIKIN, par exemple, c'est un établissement qui a été créé pour un maximum de 5 000 étudiants. Mmh. Aujourd'hui, nous avons plus de 35 000 étudiants à l'UNIKIN, sans qu'il y ait eu augmentation des infrastructures d'une certaine manière. Mmh. Nous avons également une université comme l'université de Lubumbashi ne peut pas aller au-delà de 3 000 à 3 500 étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 25 000 à Kisangani, pareil. Alors, ce qui se passe avec les établissements que nous connaissons, les grands établissements, se passe également avec tout ce qui est venu par la suite. Tous ces établissements qui sont venus, l'université de Mbandaka par exemple. Il n'y a pas suffisamment de locaux pour recevoir l'ensemble des facultés qu'ils ont créées. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas à redire là-dedans.
Oui. En fait, vous êtes secrétaire permanent du conseil d'administration des universités. Quelles sont les prérogatives, en fait, de ce conseil d'administration? Est-ce qu'ils ont un regard sur, par exemple, ce qui se passe dans les universités actuellement?
Vous savez ce qui se passe dans les universités? En fait, il y a une seule, je dirais, une seule raison qui motive tout cela. C'est que, premièrement, l'investissement dans les secteurs n'a pas suivi l'élan qui devait être imprimé depuis la création de l'université. Si vous prenez les universités telles que nous les avons connues depuis 1954, quand on les a créées, jusqu'à la création de l'UNASA, c'était des universités d'initiative privée. Donc les promoteurs, qui étaient généralement l'Église catholique, l'Église protestante et l'État, avaient les moyens de pouvoir mettre en place les universités, leur donner les moyens de fonctionnement et suivre l'évolution jusqu'à leur donner l'épanouissement qu'il faut.
Avec ce boom démographique, c'est comme si ce n'était pas prévu.
Avec ce boom démographique, justement, ça n'a pas suivi. C'est-à-dire que l'investissement dans le domaine n'a pas suivi. Alors, vous me demandez est-ce que le conseil d'administration a un regard? Oui, nous avons un regard, puisque les conseils d'administration fixent les objectifs du secteur, c'est dans la loi. Les conseils d'administration exercent un certain contrôle a posteriori, un contrôle académique, c'est vrai, exercent également un contrôle financier, c'est vrai, mais le contrôle académique se fait a posteriori, à partir des rapports que nous recevons des établissements, et parce que le contrôle même de la formation se fait au niveau des établissements. Mais le grand problème, c'est que l'investissement ne suit pas. Le budget n'est pas là.
Il n'y a pas de budget.
Il n'y a pas de budget.
D'ailleurs, le budget 2010 pour l'enseignement, c'est l'éducation, c'est moins de 10% de ce budget. Donc, au regard des besoins, c'est vraiment insignifiant. Nous allons, avant d'entrer même dans la formation, parce que nous allons s'y consacrer, il y a même une auditrice, Aline, qui a fait allusion à la qualité même de la formation. Nous allons écouter d'abord d'autres auditeurs. Bonjour, Nikèze. Nikèze, il nous appelle à partir de Kinshasa, on va essayer de pouvoir le recontacter, mais entre-temps, nous pouvons aller directement à Kalemi, c'est dans le Katanga où se trouve Kakuli, bonjour. La réalisation a aussi perdu Kakuli parce qu'on n'arrive pas à pouvoir joindre nos auditeurs. Professeur Mwabila, nous revenons à vous. Il y a une auditrice qui a fait allusion à la qualité même de la formation. Elle dit qu'il y a moins d'heures. Elle se pose, elle a même des inquiétudes par rapport à cela. Il y a même un mémorandum qui a été écrit, envoyé par les étudiants de l'Université catholique du Congo. Parmi les faits qui sont relevés, ils pensent que il y a plus d'assistants qui donnent cours que des professeurs et ils s'inquiètent de cela.
Oui, certainement. Dans les années 90, il y a une commission qui a travaillé sur l'organisation des enseignements au Congo avec l'aide d'une organisation canadienne, qui a fait un grand rapport, c'est le rapport de Pressu. Ce rapport a montré que dans le système universitaire congolais, quand on parle du système universitaire, on voit les instituts, on voit les universités, qu'au niveau des universités, on peut estimer que l'enseignement est donné par du personnel qualifié, puisqu'il y a l'exigence du doctorat. Mais dans les instituts supérieurs techniques et pédagogiques, pour la plupart, ils ont relevé que l'enseignement est entre les mains de personnes non qualifiées, parlant des assistants des chefs de travaux. puisque notre loi voudrait que celui qui donne cours à l'université, surtout là où on forme des ingénieurs, où on forme des médecins, où on forme des licenciés, il faudrait que ces personnes disposent d'un doctorat. Et les docteurs, la plupart de nos docteurs, on peut en parler, sont concentrés dans les universités. Et généralement, ils sont plus ici à Kinshasa que partout ailleurs. Il y a là donc un problème très important pour la formation de professeurs. Mais la formation elle-même, elle est liée à l'attraction qu'exerce la profession.
Avec
un salaire. La profession enseignante n'est pas attractive.
C'est comme si c'est un apostolat pour l'instant. Hein.
C'est un apostolat,
parce
malheureusement.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas et qui ne préfèrent pas beaucoup. Nous avons Kabwe Kassindi qui nous a écrit à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il dit, juste pour apporter un conseil, c'est déplorable dans une université comme l'Université catholique au Congo, qu'il n'y ait pas de sanitaires adéquats, avec tout ce qu'ils payent comme frais académiques, plus de $400, ils ont le droit de revendiquer, et que ceux qui sont renvoyés, que l'État les aide à reprendre leurs cours sans problème. À l'UPEN, c'est encore pire, pas de toilettes, et ça n'existe pas à l'UNIKIN, sauf à l'UPC. Nous avons Serge qui est à Bukavu. Bonjour Serge.
Oui Serge, bonjour maman.
Oui Serge, on vous écoute.
Oui, je suis à Abidjan. Je pense que, comme vous venez de le dire tantôt, aujourd'hui la situation de l'étudiant congolais connaît des situations catastrophiques. Après la fin que j'ai dit que nous avons du plan dans l'aile. Donc après, notre situation est une situation aujourd'hui défavorable, à tel point que nous avons la difficulté aujourd'hui à lire des ouvrages et aussi à ce que c'est des facilités de base devait aussi venir à ce que les étudiants suivent normalement. Les cours aussi adaptés à des recherches deviennent très compliqués, d'autant plus qu'il y a la nécessité de matériel, mais aussi sa réhabilitation demanderait un coût fatal aussi pour sa bonne réhabilitation. Mais je voudrais faire une petite observation par rapport à ce thème du jour. D'autant plus qu'il faudrait tout d'abord que le gouvernement voit à quelle mesure organiser au moins la situation socio-financière de l'homme congolais par la prise en charge régulière des bourses.
En tout cas, Serge, il y a beaucoup... Beaucoup, Serge, on n'arrive pas très 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 bien à vous capter. Peut-être la réalisation pourra essayer de pouvoir vous recontacter, hein, parce que là, on n'arrive pas vraiment à distinguer, à pouvoir mieux vous écouter. Quand même, merci beaucoup, Serge, hein, pour votre intervention à partir de Bounia. Nous prenons Nikès, qui est ici à Kinshasa. La réalisation a pu le recontacter. Bonjour, Nikès.
Bonjour, la radio Capine. Je vous écoute.
Oui, Nikès, dites-nous un peu comment jugez-vous les conditions d'études dans les institutions supérieures et universitaires ici à Kinshasa.
Ok, merci. Tout d'abord, je vais vous répondre par rapport aux universités publiques. Moi, je crois que le gouvernement va se rendre compte tout d'abord de l'éducation des jeunes qui sont les cadres de demain. Vous allez aussi comprendre ça sur le plan du déroulement du gouvernement et les universités, vraiment, ne sont pas bien soutenues. Je veux vous dire, parce que vous allez comprendre que l'université, c'est un cadre qui forme des jeunes, qui forme aussi des cadres qui vont gérer les gouvernements. Sur le terrain, ce que nous vivons, vous allez comprendre, c'est le fruit du manque peut-être de soutien des universités. Je le dirais parce que les enseignements dans des universités ne sont pas contrôlés. Il y a des années où on attend des grèves dans des universités publiques. Pourquoi ? Parce que les professeurs ne sont pas payés, parce qu'il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et les professeurs. Alors, c'est ça vraiment qui fait que les études ne soient pas en bonne et due forme.
Oui. Nikès, quelles sont vos propositions ? Que faudrait-il faire pour améliorer tout cela ?
Les propositions, c'est que le gouvernement va prendre les dispositions pour qu'ils puissent rémunérer les professeurs, parce que vous comprenez que dans des universités, pour qu'un professeur puisse avoir une bonne condition, il faut qu'il vende des TP, il faut qu'il fasse faire des TP. Alors, c'est comme ça. Bon, pour que ces conditions ne puissent pas arriver. Moi, je pense que le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour rémunérer le professeur.
Merci beaucoup, Nikez, pour votre intervention. C'est à partir de Kinshasa où vous intervenez. Vous avez donné votre point de vue concernant, bien sûr, ce sujet qui nous intéresse tous, les conditions d'études dans les universités et instituts supérieurs en RDC.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radioocapi.net.
Nous avons Alain au bout du fil. Il est à Bukavu. Bonjour Alain. Alain? En tout cas, aujourd'hui, nous avons vraiment des problèmes de connexion. Hein. On a vraiment un grand problème. On n'arrive pas à joindre nos auditeurs qui souhaiteraient participer à cette émission et donner leur point de vue. Professeur Mwabila Malela, vous êtes notre invité. Dites-nous un peu, quels sont les grands défis que doit relever aujourd'hui les universités en RDC?
Les défis sont nombreux. Je voulais d'abord dire un mot sur ce qu'on a entendu là. Mm-hmm. On parle des toilettes. Mm-hmm. Oui, évidemment. Lorsque une université est créée pour 2000 étudiants, les toilettes sont construites en conséquence. Mm-hmm. Et s'il y a 10 fois plus, il est évident que on ne peut qu'avoir ces problèmes-là. Alors, on a parlé du coût. Le coût de l'étudiant. Mm-hmm. Dans notre pays est fortement dévalué. Parce que nous avions, j'ai lu quelque part des études qui ont été faites par des gens sérieux qui pensent que pour une bonne formation de l'étudiant au Congo, dans les conditions actuelles du Congo, il faudrait au moins débourser $2000 par étudiant. De 2000 à $2500 par étudiant. Or, lorsque l'étudiant paye $125 et qu'il n'y a aucune instance qui ajoute ce qui manque, ça signifie que c'est un déficit qui est très difficile à combler. Oui. Alors, vous me demandez quels sont les grands défis que les universités doivent relever aujourd'hui. Il y a d'abord le problème de capacité d'accueil. La capacité d'accueil de nos établissements sont très, très faibles. Il y a quelques années, on pensait par exemple qu'à l'université de Kinshasa, il y a, pas seulement à l'université de Kinshasa, dans l'ensemble des établissements d'enseignement public, le taux de saturation a atteint 111%.
111%.
111% taux de saturation. Ça signifie que un seul siège est occupé par 111 étudiants.
Vraiment, c'est très.
Alors, s'il y a un microscope, ce microscope, le seul microscope, est consulté par 111 étudiants. Quand est-ce qu'ils auront le temps même de connaître ce qu'ils doivent connaître par rapport à cet instrument? Mm-hmm. Alors, il y a le fait que les étudiants qui ont parlé l'ont relevé. Mm-hmm. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de laboratoire qui soit mis au goût du jour. Il n'y a pas d'équipement didactique. Parce que justement, les finances ne suivent pas. Il n'y a pas d'équipement. Pour le moment, il n'y a pas d'équipement informatique dans beaucoup d'établissements. Même mm-hmm. s'il y en a, c'est insuffisant par rapport au nombre d'étudiants. Donc, cette massification que nous avons subie à partir des années 90 jusque maintenant n'a pas été suivie d'effet par rapport aux infrastructures, par rapport aux bibliothèques, par rapport aux équipements, par mm-hmm. rapport aux conditions même de logement sur les campus. Mmh. Alors, quand vous visitez à l'université de Kinshasa, les logements des étudiants, mais c'est des choses qu'on ne peut pas montrer, parce que c'est des choses immontrables.
Donc, au-delà des infrastructures, est-ce qu'il y a encore l'équipement? Vous avez souligné cela, mais aussi sur le plan même de la façon dont les cours, les enseignements sont dispensés. Est-ce qu'il y a aussi d'autres défis de ce côté-là?
Il y a beaucoup de défis. J'ai entendu, par exemple, qu'un collègue ou des collègues dirigent généralement sans mémoire. Comment voulez-vous avoir une capacité de diriger une centaine de mémoires? C'est pas possible. Alors, le problème là-bas, c'est le problème d'enseignants. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants à l'université. Dans notre système d'enseignement supérieur devrait avoir aujourd'hui quelque chose comme 3 000, 4 000 à 5 000 enseignants.
Donc
pour
faut...
avoir un fonctionnement plus ou moins normal.
Il faudrait revaloriser la
même
fonction
revaloriser,
enseignante.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut revaloriser la fonction enseignante, c'est vrai, mais il faut également mettre en place toute une politique de formation, de formation des enseignants. On y a travaillé il y a quelques années, des rapports existent, mais le problème, c'est que nous avons beaucoup de rapports qui sont dans les tiroirs, mais qui n'arrivent pas à... Qui ne sont pas exécutés.
Nous allons prendre Alain et Gaston, qui est à Kinshasa, Alain à Bukavu. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Radio Papi.
Oui,
bonjour à tous les autres.
Oui, Alain, on vous écoute concernant, bien sûr, les conditions d'études dans les universités, enseignement et en instituts supérieurs.
Non. J'étais préoccupé quand on a annoncé ce sujet, puisque actuellement nous sommes en train de constater que les étudiants sont devenus comme une opposition prise en otage par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et les autorités académiques.
Mais que voulez-vous dire par là? Est-ce que vous pouvez mieux expliciter ce que vous voulez signifier?
Oui, là, mais on ne peut pas comprendre qui est l'arrêté ministériel qui avait fixé soit les frais académiques par le ministre lui-même. Et après, quand les étudiants barricadent la route, puisqu'on a augmenté ces frais, on commence à renvoyer certains, et les autres sont donc totalement chassés de l'enseignement. Et lorsqu'on pose cette question au ministre, depuis, vous comprendrez que depuis qu'on a chassé même les 30 étudiants à l'Université catholique de Kinshasa, le ministre n'a jamais réagi à ces problèmes.
S'il vous plaît, Alain, aujourd'hui nous parlons des conditions d'études. C'est vrai que les frais académiques, vous devez les payer pour pouvoir accéder aux cours. Mais dites-nous un peu, comment vous jugez les conditions même, la façon dont les cours sont dispensés. Dites-nous aussi comment est-ce que les infrastructures. Parlez-nous un peu de ce que vous avez constaté chez vous.
Oui, dans les problèmes des infrastructures, vous verrez que partout il y a des problèmes de construction. D'ailleurs, là où moi j'étudie à l'ISR, les conditions sont dégradantes puisque vous verrez, on étudie ici et il y a des latrines qui dégagent les odeurs jusque dans les auditoires. Et là, la construction n'est pas observée. On ne connaît pas quel est le programme pris par le gouvernement pour mettre fin à cela. On ne connaît pas. Les conditions de logement, vous verrez que quelqu'un a soit acheté ou logé une chambre pour lui-même, mais comme les chambres sont insuffisantes, il est obligé de loger 4 autres étudiants et les autorités ne se penchent pas à ces problèmes-là.
Oui, Alain, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'on puisse améliorer en fait les conditions d'études?
Bon, les propositions sur les conditions d'études n'est autre que nous construire, nous augmenter les chambres de façon que chacun qui viendra soit logé à une institution supérieure ou à l'université tout court, qu'il trouve soit sa chambre lui-même, même s'il est question de la loger et donner son argent, mais il se sentira quand même à l'aise lorsqu'il est dans sa chambre. Mais lorsqu'on installe 4 ou 5 étudiants dans une chambre, comment ces gens peuvent vivre?
Merci beaucoup Alain, là vous parlez de l'hébergement, mais nous allons plus du côté auditoire. Bon, mais merci Alain pour votre intervention à partir de Bukavu. Nous prenons Gaston qui est à Kinshasa. Bonjour Gaston.
Bonjour Marie-Christine.
Gaston, on vous écoute.
Ah oui, merci. Comme il est ici question de donner le témoignage du cas vécu. Là où moi j'ai étudié, au moins on a amélioré les conditions. Parce qu'il y a amélioré, mais ce n'est pas résolu. Moi je crois qu'on devait plus se poser les conditions pour le niveau des étudiants, la formation. Parce que l'invité qui est là a soulevé une question en disant qu'en fait, si on n'a pas de professeurs, il manque de professeurs, et d'exercer des étudiants, je crois que ce n'est pas ça l'objectif. Parce que comment on peut avoir un nombre de professeurs pendant que les professeurs eux-mêmes, quand ils donnent. Ils trouvent que quelqu'un dit que c'est vraiment impossible. C'est comme si c'était un tabou. La qualité de l'enseignement. Madame, je mets un accent sur ça. On peut dormir. Même au grand hôtel, je ne suis pas dans la même ligne. Ah, on n'a pas une bonne formation.
En tout cas, Gaston, on vous suit pas très bien. On va essayer de vous recontacter. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des problèmes avec les lignes téléphoniques, ce qui va rendre un peu notre émission un peu difficile, parce que notre émission, c'est Parole aux auditeurs, c'est les auditeurs qui interviennent, qui donnent leur point de vue, qui s'expriment sur des sujets qui les intéressent. Salé à Calémie, bonjour.
Bonjour.
Salé, on vous écoute.
Oui, comme tout... le Calémie ne fait pas exception à cette règle que tous les camarades étudiants l'ont signalé. Mm-hmm. Les conditions dans lesquelles nous étudions ici sont déplorables. Par exemple, dans les auditoires, il y a interconnexion des voix, il y a des bruits par-ci, par-là. Il n'y a pas de plafond pour essayer que ceux qu'on étudie ici ne puissent pas aller de l'autre côté. Tout ça, ça ne contribue pas à la bonne formation de nous, les futurs cadres. Mm-hmm. On a l'impression de croire que le gouvernement a toujours dit que non. La jeunesse, c'est le cadre de demain. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait pour cette jeunesse qui est aujourd'hui le futur cadre? Le gouvernement ne fait absolument rien. On nous dit, non, on va essayer d'arranger les conditions d'études. Les conditions d'études, mais on se rend compte que rien ne fait. Partout, on n'a pas de moyens. Alors, on se pose des questions. Notre gouvernement a des moyens dans quel domaine? Les domaines, l'enseignement qui est le domaine essentiel de la vie. Alors, on se pose la question, il est négligé, il n'est pas supporté. Alors, si possible, il peut retourner les universités à leur position initiale, parce qu'on se rend compte que nos papas qui ont étudié dans le GEPAN avaient bien étudié et avaient bien appris, et j'étais bien formé.
Allez-vous penser à la privatisation quand vous dites retourner à leur position initiale? Parce qu'il y a déjà des universités privées.
Nous avons l'impression, toi et mieux, madame, parce que notre gouvernement n'est fait absolument rien. Mais... Alors, il ne paye pas les professeurs. Alors, il ne songe pas à la promotion des assistants qui doivent devenir des professeurs demain. Alors, qu'il privatise parce que le
Mais il faudrait pas oublier que...
le moyen de d'arranger les
il
choses.
Il faudrait pas oublier, Salé, que lorsqu'on privatise, il y aura... le prix va augmenter, les frais académiques seront plus élevés avec tout ce que cela entraîne. Mais c'est votre point de vue, Salé. Vous pensez que carrément, il faudrait que toutes les universités privées, plutôt publiques, soient privatisées. Merci, Salé, pour votre intervention. Vous êtes à Calémie, dans le Katanga. Nous prenons Arsène, qui sera le dernier auditeur de cette série. Bonjour, Arsène.
Bonjour, madame.
Oui, à Kikwit, quelle est votre lecture?
Ok, merci. À part, d'abord, je dirais, le silence radio-café qui nous embête, je crois que vous allez nous trouver la solution. Mais pour ce qui concerne notre intervention d'aujourd'hui, la vision à partir de Kikwit ici, l'université que nous avons ici, l'université de Mandoundou, c'est en quelque sorte une université privée parce que ça a été organisé par les originaires d'ici. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Mais le problème se pose au niveau de l'assistance. Le gouvernement peut crier comme il veut, mais sur place, nous ne trouvons pas qu'il y a évolution. Mm-hmm. Le nombre des étudiants augmente, mais nous n'avons pas assez d'infrastructures pour recevoir tous ces étudiants. Mm-hmm. Alors, la solution pour moi, c'est quoi? C'est, par exemple, les universités peuvent être privatisées, mais ils doivent avoir une assistance. Comme c'est un social à faire, ça doit avoir l'assistance du gouvernement central. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est une solution, mais malheureusement, nous regrettons, le président l'a dit dans son discours, qui va tenir sur l'enseignement cette année, sur le social, nous attendons, je ne sais pas à quelle date ça va commencer.
Merci beaucoup, Arsène, pour votre intervention. Nous avons déjà en ligne, nous avons pu joindre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Macha Komamba. Bonjour, professeur.
Bonjour, Marie Chantal.
Ainsi que ministre. Vous avez peut-être suivi tous nos auditeurs. En fait, pour l'instant, ils se plaignent des conditions d'études. Ils prouvent que c'est pas favorable, des auditoires qui sont vraiment inappropriés, pas suffisamment de sanitaires. Les professeurs sont insuffisants. Donc, autant de plaintes. Monsieur le ministre, quelle est la politique? Quelle est la vision du gouvernement concernant vraiment l'enseignement supérieur et universitaire? Pour l'amélioration de toutes ces choses.
Merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose saluer le professeur Mandila, qui est le secrétaire permanent du conseil d'administration des universités publiques. Saluer aussi tous les intervenants. Ils ont décrit la situation telle que nous la vivons sur le terrain, et certainement aussi saluer les auditeurs qui suivent attentivement Radio Okapi. Je pense que le diagnostic qui est posé, le gouvernement l'a posé à travers le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, également à travers les organes comme les conseils d'administration. Et je pense qu'il y a un point qui est crucial, c'est celui de moyens. Les moyens, parce que nous pensons qu'il n'y aura pas une formation de qualité s'il n'y a pas effectivement des infrastructures, que ce soit des auditoires, les bâtiments, que ce soit même le logement des étudiants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut absolument avoir une politique pour qu'on ait un personnel qualifié, parce qu'il y a beaucoup de non-qualifiés, et surtout aussi ne pas oublier la motivation, non seulement des enseignants de corps administratif, mais également penser aux organes dirigeants qui sont pratiquement oubliés depuis plusieurs années, et avoir une politique volontariste pour l'équipement matériel didactique en bibliothèque et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et enfin, penser à la relève. Le corps enseignant a beaucoup vieilli. Je viens de terminer la synthèse pour l'ensemble de professeurs de l'ensemble de nos institutions publiques. On a, en date d'aujourd'hui, 1552 en professeur, ce qui est insuffisant. Ça nous amène à un professeur pour plus de 500 étudiants, là où il faut avoir un professeur pour 10 étudiants pour les normes de l'UNESCO. Mmh. Et donc, on est conscient du problème.
Oui.
On sait qu'il faut des moyens.
Oui, mais
je pense qu'il y a une part que les uns et les autres ont oublié, et le professeur Mabila l'a bien souligné. Est-ce que pour avoir des toilettes propres, on attend que ce soit le ministre ou le président d'un conseil d'administration ou le recteur un DG qui aille le faire? Est-ce que pour maintenir un environnement salubre et qui facilite la compréhension l'assimilation des notions, doit-on attendre que ce soit toujours l'État qui vienne balayer,
oui,
mettre de la propriété? Donc je pense qu'il y a matière à réflexion.
Oui, mais monsieur le ministre,
certainement voir les responsables des uns et des autres.
Oui, monsieur le ministre, mais quelle est votre priorité? Parce que là, vous avez posé plusieurs problèmes, vous avez reconnu qu'il y a vraiment des difficultés, mais quelle est votre priorité?
Bon, en fait, il y a plusieurs priorités. Aujourd'hui, ça serait trop simple de dire qu'il faut d'abord former les enseignants. Et pour former les enseignants, il faut aussi les mettre dans les conditions qui leur permettent non seulement de vivre correctement, mais aussi d'être disposés à continuer leurs recherches et à encadrer les étudiants. Cela va naturellement s'accompagner par une action sur les infrastructures. C'est pour ça qu'on insiste pour que les établissements d'enseignement supérieur, ceux qui ont leurs équipements, comment nous pouvons les réhabiliter ou construire d'autres. Le professeur Mouavelet est revenu sur l'UNIKIN. Aujourd'hui, c'est un drame de voir qu'un campus prévu pour 5 000 étudiants, on a aujourd'hui plus de 35 000. Et il faut évidemment, il n'y a pas de recherche sans bibliothèque, sans laboratoire, sans atelier, pour ceux qui sont dans les filières techniques. Et au XXIe siècle, c'est obligatoirement l'ordinateur, la connexion sur Internet. Il y a des efforts qui sont faits, mais qui sont insuffisants.
Oui.
Et certainement, si nous n'attaquons pas avec force le problème de la relève, et c'est pour ça que nous l'avions soulevé dans le cadre du budget 2010, si notre pays ne prépare pas les chefs de travaux, les assistants à avancer, je pense que la situation va aller en s'aggravant. Donc, c'est vous dire que il y a plusieurs décennies que finalement le financement de l'enseignement supérieur a été pratiquement mis en deuxième ou en troisième plan. Aujourd'hui, si à tous les niveaux, niveau national, au niveau de partenaires, on accorde plus une attention particulière à ce secteur, je crains que, avec cette jeunesse qui est en train de monter, la croissance a démographé de 3,3%, donc on ne peut pas freiner aujourd'hui la demande au niveau du supérieur. On est conscient de tout cela et c'est pour ça que nous demandons que chacun se mobilise et que chacun fasse sa part.
Oui, oui. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que, en gros, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce sera bien sûr notre dernière question à vous poser parce que vous êtes très occupé dans beaucoup de choses et aussi nous avons d'autres auditeurs qui voudraient s'exprimer. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui est fait concrètement?
Pour le budget 2010, il y a déjà un effort que le gouvernement va faire dans la bonne direction pour un temps soit peu agir sur la motivation du personnel, qu'il soit du personnel académique ou administratif. Et de même aussi, nous sommes en train de pousser pour augmenter le nombre de ceux qui ont des bourses pour pouvoir en fait préparer la relève. Et je pense que nous sommes aussi de faire un effort pour et sur les infrastructures, c'est un dossier qui est difficile, mais surtout pour le matériel didactique et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a déjà un premier réseau de 8 universités, 4 à Kinshasa et 4 à l'intérieur, que nous sommes en train d'interconnecter, notamment aussi l'informatisation et de ces universités, mais également des 4 cliniques universitaires. Il y a l'Université catholique de Bukavu qui vient pratiquement qu'on va réceptionner maintenant, c'est un financement du gouvernement à Kindu. Il y a des efforts importants qu'on est en train de faire dans les instituts ici à Kinshasa. Et donc, c'est vous dire que non seulement l'action du gouvernement, mais aussi la mobilisation de partenaires est en train, petit à petit, non de stabiliser des situations. Et c'est pour cela aussi qu'il faut mettre de l'ordre, qu'on ne pense pas que c'est un terrain abandonné. On a vu, nous avons maintenant plus de 1800 universités et instituts dans ce pays, sans budget, parce que les gens pensent que c'est l'endroit où avoir fait le business. Nous allons contrôler l'assainissement et fermer tout ce qui est non viable et n'autoriser que des instituts qui nous montrent qu'ils ont des infrastructures, le personnel enseignant et un minimum d'équipement didactique et une bibliothèque. Autrement, ça serait une illusion de la part et des dirigeants, mais de la part aussi de la population, si nous fermons les yeux devant les dérives qui caractérisent le système.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre intervention et du temps que vous avez accordé aux auditeurs de Parole aux auditeurs qui ont des sujets que nous proposons concernant aujourd'hui les instituts supérieurs et universitaires. Encore une fois, merci, monsieur le ministre.
Merci aussi à Radio Capi.
Merci. Nous prenons Munda qui est à Kinshasa. Bonjour, Munda.
Bonjour, madame de la radio.
On vous écoute, Munda.
Oui, par rapport au sujet, je remercie d'abord l'intervention de monsieur le ministre qui a abordé les problèmes qui occupent justement nos universités. Mais je voulais souligner d'abord que dans le projet du président de la République, je pense que les priorités sont données aussi dans le Saint-Chantier d'Ordre. Il y a les priorités sur l'éducation. Donc, l'intervention dans les conditions d'études provient aussi de l'État. Mais les conditions d'études dans notre pays, parler de ça, je pense que c'est un problème amer. Du fait que nous voyons un nombre, comme l'a dit le premier intervenant, un nombre qui surpasse même la grandeur de
l'État. S'il vous plaît, Munda, nous sommes déjà à l'étape des propositions. C'est vrai que le constat, nous avons constaté ce qui se passe. Mais quelles sont vos propositions?
Mais exactement, moi je propose que dans les 5 chantiers, que les priorités ne soient pas données seulement aux routes. On voit maintenant que ce sont des routes qui sont réhabilitées et non les universités. Je pense que l'État doit venir à regarder d'un œil essentiel sur la réhabilitation des universités. Et je pense que c'est ce qui a poussé les étudiants de l'Université catholique de Kinshasa à faire un mémorandum et à marquer sur ça.
Mais voilà, merci.
Du bien que ça donnait des conséquences.
Merci beaucoup, Munda, pour votre intervention à partir de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Notre invité qui est au studio, le professeur Mwabila Malela, vous avez suivi nos auditeurs, vous avez suivi aussi le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi vous êtes membre du conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie qui regroupe une centaine d'universités dans le monde. Il faudrait dire que la situation de la RDC, c'est pas une situation isolée. Il y a d'autres pays qui ont connu aussi ce genre de problème. Selon vous, quelle serait la voie de sortie?
Vous savez, les auditeurs qui ont parlé ont posé des problèmes réels. Et le ministre qui est intervenu a donné un certain nombre de directives, de réformes que nous attendons. C'est vrai, il a fait une bonne analyse. Je crois que les problèmes que nous vivons au Congo sont assez quand même particuliers, parce que les 728 universités qui sont membres de l'AUF, ce sont des universités qui ont déjà pratiquement résolu ces problèmes que nous rencontrons. Le dérapage, en ce qui nous concerne, le dérapage est arrivé dès le moment où, en 71, on avait créé une université de l'État. Là, je crois que vraiment, il y a eu un dérapage. Parce qu'il y avait trois universités, deux qui appartenaient à des privés, donc des confessions, et une université de l'État. L'État pouvait mettre tous les moyens pour faire de cette université une université d'excellence. Or, on a créé une université nationale qui à regrouper l'ensemble de tous les systèmes. Et là, c'était déjà les débuts de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'Université nationale a quand même essayé, sur le plan de la gouvernance, a quand même essayé de prendre la mesure de ce qui s'était passé. Et là, bon, l'université a géré, assez correctement d'ailleurs, à peu près 26 000 étudiants. Or, si vous prenez uniquement l'université de Kinshasa aujourd'hui, c'est 35 000 étudiants. Donc, c'est plus d'étudiants qu'il n'y en a eu du temps de l'UNASA. Alors, donc, là, il y a un problème. Un autre problème est arrivé lorsqu'on revient au système des universités autonomes. Et en même temps, on permet à toute personne physique ou morale qui en a les moyens de pouvoir créer un établissement d'enseignement supérieur, dès lors qu'avant, c'était le monopole de l'État. Quand on a supprimé le monopole de l'État, c'est encore un deuxième dérapage très important. C'est un problème. Et là, nous avons eu pas mal, comme a dit le ministre là-bas, des gens qui sont venus et qui ont pensé que là, il y avait un créneau pour pouvoir s'enrichir. Et ils ont créé parfois de bonnes choses et parfois du n'importe quoi. Et la lutte actuelle, c'est celle-là qui consiste à aller voir comment ces choses-là fonctionnent et à valoriser ce qui est bien et à arrêter ce qui est mauvais.
Nous avons Dodi Ntambwa qui nous a écrit par notre adresse internet pa@radiocapi.net. Je pense que le gouvernement, au lieu de sanctionner tout le temps, doit tant soit peu venir en aide aux universités et instituts d'enseignement supérieur, car le besoin est énorme, mais ces instituts sont presque abandonnés à elles-mêmes. À l'intérieur du pays, par exemple, il y a prolifération des instituts d'enseignement, pas strictement privés, mais communautaires. Elles ont aussi un grand besoin d'aide. Il n'y a pas une politique claire d'encadrement des instituts supérieurs dans le pays. Il y a aussi Franck qui nous écrit à partir de l'Autriche. D'abord, du point de vue académique, il y a des instituts universitaires et supérieurs qui ne remplissent pas toutes les normes académiques pour bien fonctionner. Il y a une carence dans certaines institutions, carence de bâtiments et auditoires. La capacité d'accueil parfois n'est plus respectée. Et aussi, du point de vue de la gestion des instituts, c'est encore pire. Parfois, il y a des années élastiques allant jusqu'à 36 mois, donc 3 années académiques pour une seule classe. Le paiement des frais académiques prête à d'énormes confusions. Chaque université a ses normes, ses montants qu'elle exige. Et puis, il y a quand même des propositions et suggestions, aussi des interrogations de Franck qui nous écrit à partir d'Autriche. Comment pense pensons-nous avoir des cadres universitaires si ces futurs cadres ne sont pas formés dans des conditions respectables? Que pense notre actuel gouvernement en cette manière? C'est exactement combien le budget alloué pour le fonctionnement des universités et instituts supérieurs? Voilà autant de questions qu'il s'est posées. Encore, ce sont les mêmes problèmes. On revient sur les mêmes situations. Et cette situation, selon vous, ça pourrait prendre combien de temps avant que cette situation soit réglée?
Moi, personnellement, je suis pessimiste. Pessimiste, pourquoi? Je voulais dire. En 2005, je crois, nous avions comme diplômés d'État, nous avions à peu près 200 000 étudiants. Mmh. 200 000 élèves qui sont venus toquer à la porte de l'enseignement supérieur. L'année dernière, nous en avons eu 400 000. Et l'année ici qui vient en 2010, je crains que nous atteignions le demi-million d'étudiants diplômés d'État. Donc, demandeurs de l'enseignement supérieur. Et nous ne sommes pas capables de résorber de satisfaire cette jeunesse.
Nous allons parler nous allons revenir aux solutions, hein, parce que c'est vrai que nous sommes là, nous vivons cela, et c'est une réalité. Nous allons quand même prendre Bravo qui est à Guébena et Dr Richard à Kinshasa pour pouvoir clôturer cette émission. Bonjour Bravo.
Bonjour madame et bonjour la radio Capi.
Oui Bravo, quelles sont vos propositions pour améliorer ces conditions d'études?
Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité à partir de cette émission. J'ai à moi des propositions, mais alors une question à notre invité.
On vous écoute.
Ouais. Quelles sont les précautions, les mesures prises contre les universités, les instituts supérieurs qui ne respectent pas les droits des étudiants? Et alors, si tels sont les cas, les droits des étudiants sont violés dans quelques universités et instituts supérieurs que nous observons de la place. L'État de la République démocratique du Congo, si l'État ne songe pas à cela, nos propositions ne prendront pas place. On pourra donner plusieurs propositions, mais le non-respect de ces droits des étudiants-là ne donnera pas place à des résolutions possibles, madame.
Merci, bravo. Apparemment, vous êtes aussi très pessimiste, hein, concernant cette situation actuelle. Vous pensez que des propositions ne peuvent pas être prises en compte. Nous prenons directement Dr Richard. Bonjour, docteur. Dr Richard?
Oui.
Oui, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour l'amélioration?
Vous êtes parti de la grogne des étudiants de l'Institut facultaire catholique. Alors, à partir de ça, je dis au premier point que les universités actuellement ne respectent plus les étudiants. Moi, j'ai vu des professeurs grogner sur les étudiants. Moi, j'étais victime, j'ai été grondé dans un congrès de pédiatres par des professeurs que je n'ai pas vus à la faculté. Donc, ils sont sortis après moi. J'ai été grondé. Donc, l'accueil n'est pas bon. Les gens sont frustrés. C'est pourquoi il y a des grognes comme ça. Au deuxième point, je me demande si le but de l'université a été défini. Pourquoi je dis ça? On forme des gens qui sont incapables de résoudre le problème de la communauté. Moi, je crois que l'université devait former des concepteurs, des formateurs, des superviseurs qui soient en même temps des agents de développement dans leur communauté, pour résoudre les problèmes de communauté. Je donne un exemple. Pour tuer des souris dans nos maisons, on recourt aux Indiens pour les pièges. Ok? J'ai deux témoignages pour terminer. J'ai été candidat pour assister à un séminaire qui présentait le fixateur externe par le professeur Panda. J'ai dit à son secrétaire, le docteur Kadina Ken, que je salue, un jeune confrère par rapport à moi, que pourquoi vous n'avez invité que les médecins? Pourquoi ne pas inviter aussi les agriculteurs, les planteurs de coton?
S'il vous plaît.
Parce que le coton vient des champs.
Docteur Richard, Vraiment, nous nous excusons. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Peut-être que prochainement, on pourra y aller en long, en large. Mais merci quand même pour votre intervention. Vous pensez que nous, les universités actuelles ne forment pas des agents de développement. Merci, docteur Richard, pour votre intervention. Nous sommes arrivés à la fin. Notre invité, pour conclure cette émission, de professeur Malela, pouvez conclure cette émission.
Oui, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Là, par exemple, lorsqu'on dit que l'université ne forme pas les agents de développement, si notre société se maintient à ce niveau, c'est parce qu'il y a quand même des universités qui ont été formées. Mm-hmm. Mal ou bien, mais ils sont là. Mais à l'université, on ne forme pas des agents qui, lorsqu'ils quittent l'université, ils vont et ils commencent directement à travailler.
Les concepteurs, en fait.
Les concepteurs, d'accord. Mais nous formons à l'université, nous donnons ce qu'on appelle l'auto-formation assistée. C'est-à-dire, nous donnons à l'étudiant les moyens de s'auto-former parce que les choses sont tellement complexes. Mm-hmm. L'étudiant doit avoir les moyens de s'auto-former dans la vie et d'être performant. Et justement, c'est ce moyen qui n'est pas donné pour le moment. Quand je dis je suis pessimiste, c'est parce que il y a de plus en plus de demandes.
Une forte demande.
De fortes demandes. Nous ne sommes pas en mesure de satisfaire ces demandes. Il faut des réformes universitaires. Il faudrait que nous puissions réfléchir en profondeur sur les problèmes de l'université, de l'enseignement supérieur d'une façon générale, de l'éducation d'une façon générale, du primaire au supérieur, pour pouvoir donner d'autres orientations. Oui, d'autres orientations à notre système universitaire. Aller plus vers plus de professionnalisation et donner à l'université finalement un sens.
Merci
Mais
beaucoup.
Là, c'est un débat très important.
Merci beaucoup, professeur Mwabila Malela, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons aussi merci au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui est intervenu dans cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes secrétaire permanent du Conseil d'administration des universités, ancien recteur de l'UNIKIS. Merci aux auditeurs qui sont intervenus à cette émission et ceux qui sont restés fidèles à Radio Capi. Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain. Nous parlerons de la prolifération des centres de santé et dispensaires en RDC. Comment expliquez-vous ce phénomène selon vous? Que faut-il faire pour améliorer les services? Réagissez dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net.